Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Jean, texte de la liturgie catholique romaine pour le 19e dimanche. Alors les Juifs murmurent au sujet de Jésus parce qu'il a dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disent
« Celui-là n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère ? Comment dit-il « Je suis descendu du ciel » ?»
Jésus leur répond
« Ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés par Dieu. Quiconque est à l'écoute et apprend du Père, vient à moi. Non que quelqu'un ait vu le Père, si ce n'est celui qui est auprès de Dieu, celui-là a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit a vie éternelle. Moi, je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Tel est le pain qui descend du ciel, que celui qui en mange ne meurt pas. Moi, je suis le pain qui est vivant, celui qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour l'éternité. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Il se peut que notre premier réflexe devant ce texte soit de murmurer, comme ces Juifs qui ont entendu ces paroles de la bouche de Jésus. Comment comprendre ce pain qui est cher pour la vie du monde? Cette parole n'est-elle pas toujours trop dure à entendre comme elle le fut il y a 20 siècles? Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples commencèrent à dire « Cette parole est dure, est rude ». Qui peut l'écouter?
Eh bien, nous voyons le contexte de notre récit. Nous poursuivons l'entretien de Jésus avec les Juifs après le repas des pains multipliés. Cet entretien a lieu dans la synagogue de Capharnaüm. Jésus continue à révéler le sens profond du geste qu'il a accompli. Dans la première partie de l'entretien, il a tenté de faire passer ses auditeurs du pain matériel au pain spirituel, de la nourriture corporelle à la nourriture de la parole de Dieu. Au temps de l'Exode, Dieu avait déjà fait expérimenter aux tribus juives que l'être humain a soif, a faim de spirituel. Leur faim de pain matériel avait été comblée par la manne qui était cette espèce de sécrétion à goût de miel produite par les petits arbrisseaux du désert. Et cette expérience de dépendance envers la nature et son créateur pour la nourriture du corps devait conduire les Juifs à faire l'expérience d'une dépendance encore plus essentielle, celle qui permet de nourrir l'esprit, car l'être humain ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, la manne conduisait à désirer se nourrir de la parole divine qui est seule à pouvoir combler le cœur humain. Eh bien, Jésus veut conduire encore plus loin dans la réflexion. Le pain donné par Moïse, qui est la Torah, n'est pas suffisant pour faire vivre de Dieu.
Amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le véritable pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde.
Quel est donc ce pain? C'est moi qui suis le pain de vie, affirme Jésus, et la suite de l'entretien va préciser le sens de cette affirmation. Peut-être que à la première lecture, l'entretien peut paraître sans ordre, il n'est pas facile toujours de saisir la suite logique des idées. Alors je vous invite plutôt à comparer ce texte à une sorte de tapisserie, dont la trame principale serait le pain de vie, et cette trame principale recevrait deux fils qui s'entrecroiseraient sans cesse, à la fois un fil qui dit l'origine divine de ce pain et l'autre sa capacité de faire vivre éternellement.
C'est moi qui suis le pain de vie.
C'est donc là la trame de notre texte, le pain de la parole qui peut donner vie à l'esprit de l'être humain. Eh bien, ce pain de la parole, c'est Jésus lui-même. La Torah, la sagesse divine, est tout entière contenue en Jésus de Nazareth. C'est sa vie qui révèle le visage de Dieu, qui traduit la pensée de Dieu, qui exprime l'agir de Dieu. Alors, comment une pareille affirmation va-t-elle pouvoir se justifier ?
Les Juifs murmurent à son sujet parce qu'il a dit « C'est moi le pain descendu du ciel ».
Il faut dire que la prétention peut paraître grande. Jésus se présente comme la nouvelle Torah qui vient de Dieu. Et pourtant, tous ici connaissent ses origines. Il est le fils de Joseph et de Marie, sa famille est de Nazareth, un modeste village. Alors comment Jésus va-t-il répondre pour confirmer qu'il est vraiment le pain qui vient de Dieu ? On serait tenté de penser qu'il doit établir l'origine divine de sa parole par des signes merveilleux qui vont manifester sa toute-puissance. Eh bien, ce n'est pourtant pas ainsi que Jésus veut authentifier son témoignage. « Pour saisir que je viens de Dieu, dit Jésus, il faut d'abord être totalement à l'écoute du Père divin. Qui se met à l'écoute du Père et apprend de lui, celui-là vient à moi. » Ce n'est donc pas d'abord le Fils qui fait connaître le Père, mais c'est le Père qui permet de comprendre qui est Jésus et qui permet d'accueillir sa parole comme étant celle même de Dieu. Il faut apprendre de Dieu. Et c'est son esprit qui nous le fait connaître. Et cet esprit va le faire connaître soit par la Torah, soit par une réflexion, un regard sur la création. Tous, en effet, seront enseignés par Dieu. Cet attrait du Père, il s'exerce pas seulement sur quelques-uns ou sur le peuple juif, mais sur tous les humains. Il n'est pas réservé à personne. Il ne s'agit donc sans doute pas d'un attrait qui s'adresserait d'abord à ceux qui sont instruits et savants. En effet, les gens sans culture seraient alors exclus par Dieu. Or, tout l'évangile de Jésus crie que les pauvres sont les premiers bénéficiaires du règne de Dieu.
Vous êtes sur le chemin du bonheur, vous les pauvres, le règne de Dieu est à vous. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer l'évangile aux pauvres.
À travers toute la Bible, Dieu enseigne qu'il est miséricorde.
Le Seigneur Dieu passa devant lui et proclama « le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté. Car le Seigneur ton Dieu est un Dieu miséricordieux. Il ne te délaissera pas, il ne te détruira pas, il n'oubliera pas l'alliance jurée à tes pères. »
Voilà donc comment l'Esprit nous fait connaître par la Torah que Dieu est un Dieu miséricordieux. Mais la création aussi nous dit la bonté de Dieu, comme l'enseigne Jésus. Et celui qui sait le reconnaître saura alors aimer son prochain de bonté, son prochain, y compris son ennemi.
Aimez vos ennemis afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes.
Puisqu'il est l'amour, ce sera par l'amour et la miséricorde que Dieu attirera à lui.
Moi, Dieu, j'avais appris à marcher à Éphraïm. Je le prenais par le bras, et ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Je les menais avec attache humaine, avec des liens d'amour. D'un amour éternel, je t'ai aimé. Aussi t'ai-je attiré dans ma miséricorde.
Oui, ces textes sont ceux d'Osée, de Jérémie. Eh bien, puisque cet attrait exercé par Dieu est celui de l'amour, seul les cœurs qui sont sur la longueur d'onde de l'amour pourront vraiment ressentir l'attrait qui vient de Dieu, qui vient du Père. Au contraire, celui qui n'aime pas à la manière de Dieu ne pourra pas connaître Dieu, au sens biblique de ce terme « connaître » qui dit une connaissance intime. L'intelligence de la seule raison, si elle n'est pas fécondée par la volonté d'aimer, cette intelligence est fermée à cet attrait du Dieu qui n'est qu'amour. Jésus le rappellera d'ailleurs avec beaucoup d'émotion.
Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout petits.
Et cet amour, à la manière de Dieu, il ne faut pas le voir seulement comme étant du sentiment, c'est aussi une manière d'agir et d'agir quotidiennement. Celui qui vit sur la longueur d'onde de Dieu agit en effet comme lui de bonté généreuse.
Montrez-vous compatissant comme votre Père est compatissant.
Seul celui qui s'efforce d'aimer de vraie bonté, accueillant et donnant l'amour et le pardon sans compter, peut se laisser attirer par ce Dieu qui n'est qu'amour. La première lettre de Jean le répétera bien souvent.
Mais bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour.
Qui n'aime pas ne peut pas découvrir Dieu. C'est donc dans la mesure où l'on vit de la parole de Dieu, où elle devient l'inspiration de notre pratique quotidienne de vie. C'est dans la mesure où l'on apprend à aimer comme le Père divin que l'on peut découvrir en Jésus l'envoyé du Père. Car on retrouvera en Jésus, mais vécu d'une manière parfaite, cette bonté miséricordieuse. Souvenons-nous seulement de l'attitude de Jésus envers la femme adultère qu'on lui amène pour la juger.
Dans la Torah, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu ? Jésus se redresse et leur dit : Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre.
Interdit par cette réponse, tous partent, à commencer par les plus vieux, comme le dit avec humour le récit.
Jésus se redresse et lui dit : Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné. Elle répond : Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit : Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Non que quelqu'un ait vu le Père, si ce n'est celui qui est auprès de Dieu, celui-là a vu le Père.
En cet humain de notre chair, la règle d'amour divine est vécue parfaitement. Qui de vous me convaincra de péché, pourra dire Jésus. Celui qui vit de bonté à la manière de Dieu va donc savoir reconnaître en Jésus le Fils parfait du Père. Aimer gratuitement, c'est en effet la manière nécessaire pour devenir fils et fille de Dieu, car alors on agit avec le même esprit que Dieu. Oh, bien sûr, nous ne vivons notre filiation divine qu'en balbutiement, en moment de fidélité et en moment de reniement. Cependant, ce que nous vivons par la grâce de Dieu peut nous conduire à découvrir ce qui est vécu en plénitude en Jésus, le Fils parfait du Père. Oui, cela nous permet de pressentir en cet homme de Nazareth celui qui a vu le Père. Le prologue de l'Évangile, d'ailleurs, nous l'avait déjà indiqué.
Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. Si la Torah fut donnée par Moïse, l'amour gratuit véritable est venu par Jésus.
Oh, il est souvent émouvant de voir aujourd'hui la quête spirituelle de nombreux de nos contemporains. Dans un monde qui est desséchant de matérialisme, un monde où prime la surconsommation, l'être humain crie sa soif de transcendance. Écoutons ce qu'en dit Dominique Champagne, un dramaturge québécois.
On est dans une époque que j'appelle d'insignifiance, dans une société où les gens sont paralysés par l'angoisse de vivre. Mais je sens très fort qu'on entretient un rapport, consciemment ou pas, avec quelque chose qui nous dépasse. On ne peut pas être que nous-mêmes, aussi petit que soi-même. Il y a besoin d'être plus grand que soi-même. Les plantes ont besoin de soleil pour vivre. Je n'arrive pas à nommer ce soleil-là Dieu, mais je sens qu'on a besoin d'être habité par la nécessité de croire en quelque chose.
La réflexion de Dominique Champagne rejoint celle de nombreux agnostiques, jeunes ou moins jeunes. Plusieurs de nos contemporains se tournent d'ailleurs également vers le bouddhisme pour y trouver cette atmosphère spirituelle et cette compassion auxquelles ils aspirent secrètement. Certains pratiquent la méditation, une méditation qui est inspirée de ces religions asiatiques. Bien, ces gens-là peuvent être pour beaucoup des témoins sur la route de la vie. Et pour nous, chrétiens, ils peuvent nous rappeler l'importance du silence, de la prière, de la compassion. Mais pourtant, il est une réalité qui semble bien unique au christianisme. Si, avec beaucoup d'êtres qui sont des êtres religieux, nous chrétiens, nous pouvons dire « Dieu, personne ne l'a jamais vu », si avec nos frères et nos sœurs juifs, nous partageons la réponse de Dieu à Moïse « Tu ne peux pas voir mon visage », nous avons, nous, chrétiens, pour maître et seigneur, celui qui a osé dire « Qui me voit, voit le Père ». L'écrivain Jacques Duquesne, dans son livre « Le Dieu de Jésus », dit que c'est cette phrase « Qui me voit, voit le Père » qui a inspiré sa recherche.
Il y eut, voici 20 siècles, un homme, Jésus, qui s'est dit Dieu, qui a prononcé une phrase surprenante dont l'écho retentit jusqu'à nos jours. Il a dit « Qui me voit, voit le Père ». C'était Dieu qui se montrait. Dieu avec qui l'on pouvait discuter, qui mangeait et buvait comme vous et moi. Dieu qui avait un corps que l'on pouvait toucher. Dieu s'est montré en Jésus. Je fais partie de ceux qui le croient.
Mais une telle affirmation, qui me voit, voit le Père, ne peut sans doute être dite que parce que celui qui prononce cette affirmation, Jésus, a vu lui-même le Père. Je ne peux, moi, chrétien, m'empêcher de remercier Dieu pour cette grâce d'être disciple. Car pour nous, les mots de Jésus sont les mots de Dieu.
Les mots que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père demeure en moi.
Le chemin vers Dieu n'est donc pas, pour le chrétien, un itinéraire philosophique, c'est une personne. Le visage de Dieu n'est pas l'énergie, même transcendante et globale. Le visage de Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Les gestes de Jésus sont les gestes de Dieu. En Jésus, Dieu a un cœur de Père dont la tendresse infinie résonne dans les mots mêmes qui sortent de sa bouche. En Jésus, Dieu a des bras qui m'étreignent avec une miséricordieuse chaleur. En Jésus, Dieu souffre, Dieu pleure à cause du mal et de la souffrance de ses fils et de ses filles. En Jésus, Dieu sourit et me dit sa joie et son bonheur devant celui qui se libère et se met debout. Le chrétien ne voit pas Dieu, pas plus que le bouddhiste ou le juif ou le musulman, mais il voit celui qui a vu Dieu. Qui me voit, voit le Père. C'est là la certitude qui me fait, moi, personnellement, chrétien. C'est la certitude qui m'arrache au doute dans lequel me laisserait, sans doute, toute réflexion sur l'univers, toute méditation sur le sens de l'existence. Parce qu'il est celui qui peut me dire une pareille certitude, qui me voit, voit le Père. Jésus est pour moi vraiment le chemin, la vérité et la vie. Et quelle exultation quand j'entends le Maître me dire « Je ne t'appelle plus mon disciple, mais mon ami, car tout ce que j'ai appris du Père, je te le fais connaître. »
C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
Toute communion profonde entre des personnes se réalise à la fois par la parole et par l'esprit. La parole est intelligence, elle donne sens à la vie. L'esprit est amour et il communique une force pour agir. La médiation de Jésus entre son Père et nous se situe donc sur ces deux plans. Et il ne faut pas seulement connaître les mots de Jésus, il nous faut les faire descendre dans la mémoire du cœur pour qu'ils deviennent source de notre agir quotidien. Il n'est pas de communion avec Jésus sans une connaissance amoureuse de l'Évangile, sans une méditation silencieuse de la vie du Seigneur bien-aimé. Le Père ne communique l'Esprit que dans le silence de la prière.
Le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit.
Pour accueillir l'Esprit, Il faut avoir soif et il faut se donner le temps de boire. Des deux sœurs, Marthe et Marie, l'une a choisi la meilleure part, Marie, qui est assise aux pieds de Jésus dans l'attitude de l'apprenneur, de l'élève qui écoute son enseigneur. Marie a choisi de se nourrir du pain de vie. Marthe, elle, avait choisi de s'occuper des pains. Écoutons saint Augustin.
Le Fils parlait, mais le Père enseignait. Le Père enseigne quiconque entend sa parole. Apprends à être attiré par le Père vers le Fils. Pour que le Père t'enseigne, écoute sa parole.
On ne peut croire, connaître, aimer Jésus sans travailler à inscrire jour après jour dans notre mémoire les paroles et les gestes de l'enseigneur, du maître. L'amitié avec Jésus est à ce prix. Or, combien de chrétiens, combien de baptisés qui sont normalement des disciples du maître connaissent-ils par cœur les paroles essentielles de l'évangile ? Si nous sommes encore si souvent affamés et assoiffés au plan spirituel, n'est-ce pas parce que notre cœur mémoire est vide des paroles du Seigneur? Si nous agissons bien souvent avec des réflexes égoïstes et violents, n'est-ce pas parce que notre cœur mémoire ne nous inspire pas spontanément les gestes d'amour et de respect? Si nous sommes si peu vivants, n'est-ce pas parce que nous ne mangeons pas assez le pain de la vie? Et c'est pourtant cette vie en nous qui témoigne que Jésus est le vrai pain de vie. Si le premier témoin de Jésus est le Père lui-même, le Père en qui nous voyons la source de l'amour que Jésus vit, eh bien le second témoin assigné par Jésus, c'est le disciple, mais le disciple qui vit de son amour. Tel est le pain qui descend du ciel, que celui qui en mange ne meurt pas. Oh, il ne s'agit pas là bien sûr de la mort corporelle, mais de la mort spirituelle, dans laquelle se trouve celui qui est sans amour.
Nous, nous savons que nous sommes passés de la mort dans la vie, puisque nous aimons nos frères. Qui n'aime pas demeure dans la mort.
Cette phrase de la première lettre de Jean rejoint celle de Jésus. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra d'éternité. Qu'est-ce que la vie éternelle? Sinon, la vie divine. Et qu'est-ce que la vie divine? Sinon, la vie qui est animée par la bonté gratuite et généreuse. Cette bonté qui nous fait aimer chaque prochain comme nous-mêmes, sans distinction et sans exception. De sa naissance jusqu'à son dernier souffle, Jésus a été fidèle totalement à cette règle de l'amour. En lui, jamais les vouloirs de haine, d'égoïste, de possession, de violence n'ont conduit son agir. Toujours a primé pour lui la volonté d'aimer, le don de soi jusqu'au pardon et jusqu'au dernier pardon qui s'est fait dans le don total de sa vie sur la croix. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. Dans le langage de la Bible, chair et sang est une expression qui désigne l'être humain tout entier. Et on l'emploie plus volontiers pour désigner l'état violent de la mort où chair et sang se séparent. Mais Dieu va ressusciter celui qui a sauvé son âme parce qu'il a donné sa vie, qui perd sa vie la sauve. Parce qu'il est, pour toujours, vivant, aimant, Jésus peut être, pour chaque être humain qui l'accueille, une source de vie, et cela tout au long de l'histoire. Oh, certes, les paroles de la Torah sont des paroles qui viennent de Dieu et qui enseignent à aimer comme Dieu, mais ces paroles, si elles sont seules, elles sont impuissantes à faire vivre. L'apôtre Paul l'a fort bien dit. La Torah, dit-il, ne fait que donner la connaissance du péché. Écoutons-le dans sa lettre aux Romains.
Vouloir le bien est à ma portée par la Torah, mais non pas l'accomplir, puisque je ne fais pas le bien que je veux et commets le mal que je ne veux pas. Qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort?
Jésus rappelle que ceux qui ont mangé la manne sont morts. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Là encore, il ne s'agit pas de la mort corporelle, ce serait une évidence, mais de cette mort spirituelle dont la manne, symbole de la Torah, ne peut vraiment délivrer. C'est ce que redit saint Paul. « Qui me délivrera » demande-t-il. « Qui me délivrera de tout ce qui me conduit au mal ?» Et il s'exclame « Grâce soit à Dieu par Jésus. » Alors, pourquoi la parole de Jésus conduit-elle à la vie ce que ne peut pas faire la Torah ? Parce que Jésus est Torah vivante. parce qu'il est non pas seulement un modèle ou un exemple, mais parce qu'il est un compagnon de vie. Il est alors celui qui peut tenir sa vie à la nôtre, son intelligence à la nôtre, sa volonté à la nôtre. Il peut nous aider à aimer à chaque instant et aux instants les plus difficiles. Et lorsque, par malheur, nous succombons au désir de l'égoïsme, du ressentiment, de la haine, Jésus peut encore nous guérir et nous recréer par son amour et par son pardon. Si Jésus est le pain de vie véritable, c'est qu'il est non seulement évangile, message, mais c'est parce qu'il est l'ami le plus intime, plus près de nous qu'aucun de nos amis. Être disciple de Jésus, c'est vivre avec lui une intimité qui est de l'ordre de l'amitié. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Qui vit des paroles d'amour de Jésus, qui les met en pratique, qui vit avec Jésus, celui-là vit déjà d'éternité. Pour lui, la vie éternelle est déjà commencée. Et seul le péché mortel, c'est-à-dire le péché qui est refus de Dieu et de son pardon, seul ce péché peut nous ôter cette vie que veut nous donner Jésus. La mort corporelle ne sera qu'un moment. L'union avec Jésus nous assure de retrouver la vie au-delà de la mort. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Comment ne pas demeurer comme interdit devant une telle certitude chez Jésus, devant une telle confiance que l'amour qui est en son cœur est vivant pour toujours et peut faire vivre pour toujours ses disciples. Oui, ou bien Jésus est l'inconscient le plus génial de toute l'humanité, ou bien il est l'humain divin, l'être humain qui vient de Dieu. Oui, grâce soit rendue à Dieu pour Jésus, celui en qui réside tout son amour. Là est vraiment l'essentiel du christianisme. Jésus a rencontré pour vivre d'amour comme lui et par lui.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
514-256-4110. Vous nous trouvez aussi sur Internet. Téléphonez-nous, nous vous donnons l'adresse du site. Et vous pouvez également vous abonner pour 3 mois, 6 mois ou 1 an, soit au feuillet, soit aux cassettes.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean B. Duchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine. Ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.